Bonsoir à tous, nous sommes un peu en retard parce que nous avons attendu la fin de la messe pour présenter aujourd'hui donc comment vivre la dévotion à l'enfant Jésus tout court, hein, on dit l'enfant Jésus de Prague, mais Marie et Alix, et je ne veux pas maintenant la présenter, mais ceux qui ne l'ont pas connue la dernière fois, donc elle fait partie de notre équipe, elle est conférencière de profession, et donc c'est elle qui a aussi, qui a reçu vraiment des grâces spéciales de l'enfant Jésus, elle va vous témoigner. Voilà, parce qu'on est un peu en retard, on va commencer tout de suite la conférence. On commence par une petite prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je souhaite bonne fête à tous.
Voilà, donc c'est toujours évidemment une grande joie de parler de l'enfant Jésus de Prague, pour lequel ma mère a passé 30 années de sa vie, les 30 dernières, à le faire connaître en France, puisqu'on peut dire que cet enfant Jésus, qui a été extrêmement connu au XVIIe et au XVIIIe siècle, dans l'Europe entière, a connu, nous verrons pourquoi, un peu une éclipse au XIXe siècle, et de nouveau, depuis quelques années, on le vénère de plus en plus, et il est source de grâce. Pour moi, personnellement, j'avais eu une petite fille et puis du mal à avoir une seconde, ou un second, évidemment. Et puis, ma sœur aînée est carmélite au Carmel de Créteil. Et ce qui est amusant, c'est qu'on dit toujours le petit Jésus de Prague, on l'appelle le petit grand, et il ne manque pas d'humour. Et il est vrai que ma mère a trouvé au Carmel, où est ma sœur, une neuvaine à l'enfant Jésus. Mais avec un petit livre minuscule, presque la taille d'un timbre-poste. Donc c'était une neuvaine avec ce tout petit livre. Et bien voilà, j'étais exaucée en ayant plusieurs enfants après la récitation de cette neuvaine. Les miracles qu'a fait l'enfant Jésus de Prague sont très nombreux, que ce soit des guérisons physiques ou des guérisons morales, bien sûr. Et je vais essayer, même si mon temps est assez limité, de vous raconter cette histoire avec l'idée aussi comment vivre la dévotion, puisque j'accueille bien sûr très volontiers et avec joie les enfants qui sont ici. Et qu'est-ce qui plaît à l'enfant Jésus en fait? Pourquoi cette dévotion à cet enfant? D'abord, ce qui est certain, c'est que l'incarnation, qui est un grand mystère, anoblit et ennoblit tout ce qui est humain. Le fait que Dieu soit venu sur terre, qu'il ait été même venu comme un bébé, comme un enfant, c'est tout à fait extraordinaire. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de développer l'art chrétien. Nous savons que dans le judaïsme, puis plus tard dans l'islam, on n'a pas de représentation de Dieu. Nous pouvons représenter Dieu comme nous voulons, puisqu'il s'est fait homme. On va même sur le plafond du château de Versailles, par exemple, jusqu'à représenter Dieu le Père, qui évidemment n'a jamais eu de corps, mais on le représente dans la Trinité avec le Fils et le Saint-Esprit. Nous connaissons beaucoup de saints très très attachés à l'enfant Jésus. Ceux particulièrement qui me viennent à l'esprit, c'est saint Antoine de Padoue, que nous avons quasiment dans toutes nos églises avec l'enfant Jésus dans les bras. Et puis saint Thérèse d'Avila, de qui nous vient la dévotion pour l'enfant Jésus de Prague, parce que dans l'Espagne du XVIe siècle, redevenue chrétienne après des années d'islam, il y a eu une très très grande dévotion à l'enfant Jésus. On le représentait debout, vêtu d'habits magnifiques, comme l'est d'ailleurs l'enfant Jésus de Prague, et on verra pourquoi il est représenté vraiment comme un roi. Et sainte Thérèse d'Avila, lorsqu'elle allait faire ses créations, ses fondations de nouveaux couvents du Carmel, elle avait toujours avec elle une statue d'un enfant Jésus. Et un jour, elle avait une très grande familiarité avec l'enfant de Jésus. Et on raconte qu'elle a croisé un petit enfant qui était l'enfant de Jésus et qui lui demande « Qui es-tu ?» Et sainte Thérèse lui répond « Je suis Thérèse de Jésus. Et vous ?»« Moi, répond-il, je suis Jésus de Thérèse. » Elle avait cette familiarité qu'on peut avoir associée à un immense respect, bien sûr, mais c'est tout à fait charmant. Bien sûr, nous avons aussi la troisième, sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Et dans la dévotion à l'enfant Jésus, comme a dit le Père Abbé, en général, bien sûr, il faut se rappeler qu'elle s'est appelée sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la sainte face. Puisque nous voyons bien dans l'Évangile que après la gloire de la naissance, l'adoration des mages, vient très vite la croix avec le massacre des saints innocents. Donc, la première idée, c'est que dans la dévotion à l'enfant Jésus, c'est bien sûr accepter toutes les croix qui émaillent notre quotidien. D'ailleurs, j'ai vu cette semaine, je me suis dit, tiens, voilà une phrase facile à retenir, difficile à mettre, évidemment, en exécution, c'est « Celui qui aime Jésus doit aussi aimer la croix de Jésus. » Ça, c'est certain. Donc, ce culte, il a été rendu à cet enfant Jésus, bien d'abord par la Vierge Marie, qui adore son fils, Saint Joseph, évidemment, les pauvres et les rois mages. Et on va l'appeler, cet enfant Jésus, celui de Prague, le petit grand, le petit pragois, le roi de gloire. Paul Claudel parle de son énorme chapeau jaune, qui est cette couleur, cette couronne impériale qu'on lui a mise. Alors, je vais passer relativement vite, mais ici, c'est la bataille de la montagne blanche. En fait, au moment où commence le culte à Prague, il y a les guerres de religion, donc terribles, entre protestants et catholiques, et l'empereur Habsbourg, Ferdinand II, veut avoir un saint prêtre avec lui pour prier pour une victoire de la foi catholique. Et il fait venir un carme que vous avez sous les yeux, qui avait trouvé, lors d'une visite dans une ville, une icône abandonnée sur laquelle tous les yeux de ceux qui étaient représentés sur l'icône, la Vierge, Saint Joseph, avaient eu les yeux crevés, mais pas l'enfant Jésus. Il a donc pris cette icône et pendant la bataille de la Montagne Blanche, qui a vu effectivement la victoire des catholiques sur les protestants, il a prié avec cette icône à la main. À partir de ce moment-là, l'empereur Ferdinand II de Habsbourg, qui était roi de Bohême, va, pour le remercier, créer des monastères du Carmel et il crée donc un monastère à Prague qui existe toujours aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, l'original de cette icône a disparu, mais il reste cette copie que vous avez sous les yeux ici, qui se trouve dans l'église de Prague, prénommée Notre-Dame des Victoires. Alors, la voici, cette église. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller en 2001. Elle a été donc vraiment érigée par les Carmes en remerciement de ce Carmel, qui a eu du mal, en fait, parce que, là, je vous passerai les détails historiques, mais tout le XVIIe siècle et une partie du XVIIIe, la foi catholique est quand même mise en péril. Donc, elle est attaquée, on a vu, avec les guerres de religion. Au XVIIIe siècle, on aura, c'est un peu étonnant, mais c'est comme ça, le frère de la reine Marie-Antoinette, Joseph II, empereur d'Autriche, qui va vouloir se débarrasser des monastères, trouvant qu'en fait, les moines ne servent pas à grand-chose. Et donc, il va faire fermer beaucoup de monastères, dont ce monastère des Carmes, comme on va le voir plus tard. Alors, à l'intérieur, voici ici l'intérieur de Notre-Dame des Victoires, et l'enfant Jésus, en fait, vient d'une princesse qui est ici, dont la mère était d'origine espagnole. C'est pour ça que c'est important de se rappeler que Sainte Thérèse d'Avila avait toujours cette statue de l'enfant Jésus, et il est plus que probable que l'enfant Jésus de Prague est une statue qui a été faite en Espagne, qui a été donnée par une Espagnole qui avait épousé un seigneur tchèque à sa fille, que vous avez sous les yeux, princesse de Lobkowicz, et celle-ci donc, va la donner à princesse Medina, pardon, qui va la donner à sa fille, qui épouse le prince de Lobkowicz. C'est cette petite fille que vous avez sous les yeux. En fait, cette petite fille, elle est très pieuse, Et elle arrive un jour pour prier chez les Carmes, et elle a apporté une petite statue qui a, vous remarquerez, juste la taille d'un bébé à la naissance. Donc cette petite statue, elle fait 48 cm de haut, elle est en cire, et la princesse de Lobkowicz la porte aux Carmes en disant « Je vous donne ce que j'ai de plus précieux, honorez cette image et vous ne manquerez jamais de rien. » Alors, voici ici la princesse qui offre aux Carmes cette petite statue, et ceux-ci immédiatement vont la vénérer et on va l'habiller. À Prague, il y a un musée, une sorte de musée du costume de l'enfant Jésus de Prague, puisque pour l'honorer, on l'a évidemment couronné d'abord, et ensuite, on lui a fait des habits extraordinaires. C'est une de mes amies, je ne la remercierai jamais assez, qui a fait toutes les petites robes liturgiques que vous avez ici. En plus, quelque chose de touchant, c'est que cette amie a perdu son mari il y a 5 ou 6 ans, et elle savait que j'aimais bien l'enfant Jésus, et un jour, elle m'a dit « Tiens, je vais à Prague en famille, où est-ce que je dois aller ?» Et je lui dis, surtout, on va voir l'enfant Jésus. Et donc, elle a perdu son mari quelques temps après, et elle nous a fait bénévolement toutes les petites robes que vous avez donc sous les yeux à l'église, dans l'église. Alors, cette petite statue, la voilà. Vous voyez, donc 48 cm de haut, en cire, souriant, extrêmement gracieux. Et il tient dans les mains un globe, ici qu'on lui a retiré, parce que quand on l'habille, évidemment, il faut lui retirer. Il bénit de la main droite. Il y a aussi, quand il y a une sorte de bague sur les deux doigts, en histoire de l'art, ça représente l'Ancien et le Nouveau Testament, mais aussi la double nature du Christ, totalement homme, totalement Dieu, sans fusion, sans confusion, comme l'a défini un des conciles. Donc voilà ici ce visage. Et vous verrez que celui que nous avons en France, au Carmel de Meaux, est vraiment, à mon avis, qui est le plus gracieux après celui de Prague. Alors, les années après l'installation au couvent de cet enfant Jésus, elles sont très difficiles, parce que les protestants prennent et reprennent la ville de Prague, parfois d'ailleurs sans trop de dommages, parce que la prière pour l'enfant Jésus est intense, et de plus en plus, tous les grands de ce monde vont venir vénérer cet enfant Jésus à tel point qu'on va lui faire une gloire. Et la gloire dans l'art baroque, c'est quand même quelque chose. Heureusement que l'enfant Jésus a des robes colorées parce qu'il est assez haut dans l'église Notre-Dame des Victoires. Et donc, heureusement, il a son habit qui change selon la liturgie. Et même le bleu, qui d'habitude n'est pas une couleur liturgique, pour les fêtes de la Vierge Marie. Donc c'est un enfant en gloire, et encore une fois, je vous dis, cet art baroque qui étonne, parce qu'on me dit parfois, mais il n'est pas très modeste cet enfant Jésus. Je dis, oui, mais d'abord c'est nous qui l'avons couronné, il n'est pas apparu dans le monde couronné, au contraire, il est arrivé dans une crèche très humble. Le Curé d'Ars lui-même disait, rien n'est trop beau pour Dieu, et nous avons toujours eu dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de l'art, la somptuosité des églises baroques pour rendre hommage à Dieu et la simplicité des églises cisterciennes ou carthusiennes pour des moines qui, effectivement, ne veulent pas forcément se distraire, mais prier. Donc, cette gloire ici est à Prague. C'est donc cet élément doré extraordinaire qui entoure l'enfant Jésus. Mais avant d'être installé vraiment si bien, l'enfant Jésus, à un moment donné, a été cassé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le couvent a été pillé, les moines ont été obligés de partir, tous les protestants avaient renversé les autels, les statues n'ayant pas le culte des saints, et l'enfant Jésus donc, a disparu. En fait, il était tombé derrière un autel, les mains cassées. Le temps a passé, et après 7 ans d'absence, un père qui venait du Luxembourg, un père Carme, le père Cyril, à qui nous devons la très belle prière à l'enfant Jésus, est revenu à Prague. On a commencé à restaurer un peu, mais il savait qu'il y avait cette statue quelque part et il se demandait si elle avait disparu ou si on la retrouverait. Et à force de nettoyer et ranger, il l'a retrouvée tombée derrière l'autel. Seulement, ses petites mains étaient parties. Et le symbole des mains, il me paraît très important, parce que la main, c'est celle qui reçoit, mais c'est celle qui donne. Elle est très expressive dans le corps humain. Donc, ce père Cyril, qui a une très grande dévotion pour l'enfant Jésus de Prague, va demander au père prieur de réparer les mains. Mais successivement, le premier, puis le second, refusent de réparer les mains. Le premier, c'est qu'il n'attache aucune importance à l'enfant Jésus, ce n'est qu'une statue comme une autre. Le second est plus gentil, mais c'est un peu ce qu'il ne faut pas faire avec Dieu, c'est donnant, donnant. C'est-à-dire, si Dieu nous donne des grâces, nous le ferons réparer. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Il faut d'abord le faire réparer, et puis on a confiance en Dieu après. Donc le père Cyril, il va montrer une qualité extraordinaire qui est la persévérance et la confiance. Et quand on parle de dévotion envers l'enfant Jésus, nous nous remettons évidemment à l'époque de notre enfance. Donc une époque où les enfants, la plupart du temps, sont confiants dans ce qu'ils aiment, ils sont persévérants, ils sont volontaires. Et ce père Cyril a mis tout cela en œuvre, en acceptant aussi d'être parfois renvoyé, puisque un jour, une dame arrive dans la sacristie et lui donne une somme d'argent. Donc, tout heureux, il va voir le prieur et lui dit « Voilà, on a largement de quoi réparer l'enfant Jésus. » Mais le prieur lui dit « Oui, mais le couvent est très très pauvre. Nous avons parfois faim. Donc, je vous donne un demi-florin. » Et lorsqu'il va faire réparer la statue, c'est un florin. Donc, il faut encore attendre. Et il a un jour, une espèce, comme un peu comme un songe, enfin une idée qui lui vient de Dieu, qui lui dit « Mets-moi près de la sacristie et quelqu'un aura pitié de moi. » Effectivement, il met la statue près de la sacristie et un certain monsieur Wolf arrive et décide de faire réparer cette statue puisqu'il a pitié de cette statue qui a perdu ses petites mains. En plus, ce qui avait vraiment touché le père Cyril, c'est que quand il avait entendu le premier appel de cet enfant dans son cœur, c'était ceci. « Ayez pitié de moi, disait l'enfant Jésus, et j'aurai pitié de vous. Rendez-moi mes mains, je vous donnerai la paix. Plus vous m'honorerez, plus je vous favoriserai. » Donc le père Cyril s'est vraiment senti cette vocation de faire connaître ce petit enfant Jésus. Alors, on va après le couronner. Donc, une première fois, M. Wolf avait fait réparer les mains, la statue est retombée, à nouveau cassée, re-réparée, et cette fois-ci, c'était bon. Donc, la petite statue qui est à Prague aujourd'hui, c'est celle-là, cette petite statue donc, en cire de 50 cm à peu près. Alors, cette couronne, en fait, c'est intéressant, c'est que j'ai vu quelqu'un qui s'y est intéressé, c'est Edith Stein. Donc, après ça, conversion du judaïsme au catholicisme, cette grande philosophe devient carmélite. On l'avait fait à Cologne. Ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on craignait pour sa vie, donc on l'a envoyée aux Pays-Bas. Et comme les évêques des Pays-Bas s'étaient violemment opposés à la déportation des Juifs, en représailles, si vous voulez, Hitler a dit, eh bien, tous les catholiques, les religieuses, tout le monde, on les envoie en camp. Donc, elle est partie en camp de concentration. Quand elle est arrivée d'ailleurs au camp, elle a dit, où elle va mourir assez vite, elle a dit, le petit Jésus se trouve aussi ici. Et c'est vrai que quand on a l'impression d'une absence de Dieu, un peu, il faut se rappeler cette phrase aussi très belle qu'elle aurait pu dire au camp. On assiste dans un camp à la mort d'un enfant et un incroyant dit à son voisin qui est chrétien, mais où est Dieu là-dedans? Et le chrétien montre l'enfant qui vient d'être tué et lui dit, ben Dieu, il est là. Donc cette dévotion, cette confiance de Edith Stein qui va mourir assez vite, elle a écrit un texte sur l'enfant Jésus. Et sur l'enfant Jésus, roi et même empereur. Elle a médité sur la couronne que vous avez sous les yeux et elle dit, enfin je vous dis son idée, dans un de ses textes et dans son livre sur Saint Jean de la Croix, elle dit, il me semblait que l'enfant Jésus n'était pas par hasard avec cette couronne d'empereur qu'on lui a mis, que les hommes lui ont mis. C'est que peu de temps après, l'Empire allait s'effondrer Et eh bien, à la place, nous allions avoir cet enfant Jésus qui allait régner. Un peu comme en France, si vous pensez, nous n'avons plus de reine au XIXe siècle, bon, sauf la gentille reine Marie-Amélie, mais ce n'était pas tout à fait pareil, eh bien, la Vierge a apparu un nombre incroyable de fois. Quand vous pensez la rue du Bac, Lourdes, Pontmain, la Salette, ou plutôt la Salette, Pontmain, Pelle voisin, la reine vient et à chaque fois, c'est la piété populaire qui va vraiment la couronner comme reine de France. D'ailleurs, on disait sous l'Ancien Régime, le royaume de la Gaule, donc de la France, c'est le royaume de Marie. Alors, c'est important cette petite robe parce qu'elle a été faite dans les années 1743 par l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse, la mère de Marie-Antoinette, qui avait réussi à s'imposer sur le trône. Il y avait eu une guerre d'ailleurs à ce sujet. Et donc, elle brode elle-même avec des fils d'or cette robe en velours vert qui orne l'enfant Jésus. Alors, vous allez me dire, pourquoi a-t-il une croix de Malte dans la main gauche avec au-dessus du globe qui représente vraiment sa royauté et même son empire? La raison, c'est qu'à un moment donné, l'église Notre-Dame des Victoires de Prague a été fermée et on a laissé à l'ordre de Malte, en fait, le soin de s'occuper de l'église qui est devenue une paroisse. Et donc, ils ont mis, en fait, cette croix de Malte sur le globe de l'enfant Jésus. Peut-être la croix d'avant avait-elle disparu. Une chose qui me paraît importante aussi, c'est que nous voyons donc, ça a été dit par deux papes d'ailleurs, Pie XI et Léon XIII, c'est d'eux que je tire cette idée, c'est que non seulement l'enfant Jésus doit régner dans nos cœurs, mais aussi dans les États. Et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Sainte Marguerite Marie quand elle demande que le roi Louis XIV mettre sur ses armes, sur ses étendards surtout, et ses armes de guerre, l'emblème du Sacré-Cœur. En fait, dans la doctrine sociale de l'Église, l'idéal est la distinction entre les deux pouvoirs. Il y a un pouvoir temporel et un pouvoir spirituel qui sont distincts, mais il y a un lien entre les deux. Donc ce n'est ni la fusion, ni la séparation. Alors, ce petit musée, vous allez voir, ces robes sont extraordinaires. Nous en avons pas mal qui viennent d'Asie, où des religieuses carmélites de Corée du Sud, de Chine, etc., ont brodé des robes ravissantes qui, en général, sont des années 1890, 1900, 1910, ça dépend, mais aujourd'hui, on peut toujours continuer à en broder. Et voilà, ici, par exemple, qui a été faite en Chine, puisque vous avez l'emblème du dragon. Alors, il y a un endroit au monde, il y a plusieurs endroits, il y a vraiment l'enfant Jésus est très connu en Asie. Pourquoi? Parce que les carmes ont été apostoliques et missionnaires. Donc, partout où vous avez des carmes dans le monde, partout où vous avez cet enfant Jésus de Prague. Mais il y a un sanctuaire qui a vraiment été construit spécialement pour l'enfant Jésus. C'est à Aranzano, près de Gênes. À l'époque de Saint-Pédis, le premier ministre, je dirais, de Saint-Pédis est venu spécialement bénir l'enfant Jésus qui, à Aranzano, qui vous voyez, est en gloire au-dessus de l'autel. Alors ici, le voilà comme je dirais représenté classiquement, c'est-à-dire avec son manteau rouge, rouge étant la couleur de l'Empire. Et nous avons beaucoup de peintres qui l'ont représenté, comme par exemple Brady Barthes, de sa peinture si religieuse et un peu naïve, mais sans que ce soit péjoratif, bien sûr, où vous avez ici la Vierge et le petit enfant Jésus. Il n'a qu'une robe, il n'a pas vraiment le manteau de l'enfant Jésus de Prague, mais il a bien cette robe rouge extrêmement ornée, avec le globe dans les mains. Simplement ici, au lieu de bénir avec sa petite main, il touche la main de sa mère, la Vierge Marie. Alors, en France, le culte à l'enfant Jésus a été développé à Beaune, où je vous recommande vivement d'aller, grâce à Marguerite du Saint-Sacrement, qui était, je ne sais pas si c'est un trait de l'humour de Dieu, mais une toute petite religieuse. On disait qu'elle mesurait, elle n'avait jamais grandi plus qu'un mètre 40. Donc cette toute petite religieuse a été vraiment une sainte extraordinaire et a même bénéficié d'apparitions et d'une vie avec l'enfant Jésus tout à fait extraordinaire. Elle a été déclarée vénérable, mais je pense que le dossier ira plus vite un jour jusqu'à la sainteté. Et cette Marguerite du Saint-Sacrement a eu vraiment une dévotion particulière pour l'enfant Jésus de Prague. Mais Dieu s'occupe de tout, à la fois de ce qui est spirituel et temporel. Donc, elle a eu aussi dans ses prières la demande qu'il fallait prier pour la naissance d'un dauphin. Or, le roi Louis XIII et la reine d'Anne d'Autriche à l'époque étaient mariés depuis près de 22 ans, sans enfant, et la sœur Marguerite du Saint-Sacrement, qui a écrit, enfin, dont on connaît toute la vie, elle a beaucoup prié, et elle a su quasiment avant la reine que celle-ci était enceinte. Après Marguerite du Saint-Sacrement, c'est l'enfant de Beaune. Et il y a M. Doranty qui lui a offert une belle statue de l'enfant qu'on prie toujours à Beaune. Après, c'est le Carmel de Meaux qui va, les années 1850, entendre parler, enfin, ils avaient déjà entendu parler, mais qui ont voulu vraiment relancer la vénération à l'enfant Jésus de Prague et l'adoration. Et seulement, c'est une sœur, une religieuse, qui a vu dans sa cellule un petit enfant. Elle s'appelle sœur Gertrude. Là aussi, on le trouve dans les annales du Carmel de Meaux. Et quand elle a vu ce petit enfant, elle ne l'a pas reconnu. C'est-à-dire qu'elle a su que c'était l'enfant Jésus, mais elle se disait, je ne l'ai jamais vu habillé comme ça, avec cette robe, ce manteau, cette couronne sur la tête. Et puis, un jour, en recevant les annales du Carmel, elle a dit, mais c'est l'enfant Jésus que j'ai vu. Donc, elle a commandé, les religieuses de Meaux ont commandé à Prague une statue de l'enfant Jésus, et elles ont été très généreuses, parce qu'elles avaient mis cette statue dans leur couvent. Et vous savez qu'étant cloîtrées, évidemment, elles ne sortaient pas normalement du couvent. Mais elles ont voulu mettre l'enfant Jésus pour que tout le monde puisse le prier. Et donc, elles l'ont mis dans la chapelle où il se trouve toujours aujourd'hui. Et le voilà, donc c'est une statue qui a été faite dans les années 1880. La statue vient de Prague et c'est certainement une des plus gracieuses statues que nous ayons. Vous remarquerez qu'on lui a mis une couronne royale, mais ce n'est plus la grosse couronne que porte la statue originale de l'enfant Jésus, qui est, comme je vous disais, une couronne impériale. Alors le voilà, cet enfant Jésus de Beaune, que l'on vénère et qu'on adore toujours à Beaune, puisque par une grâce divine, après avoir... le Carmel a été aussi fermé à la Révolution, puis rouvert, et même encore aujourd'hui, où il y a moins de vocations religieuses, il y a toujours un ordre pour s'occuper de cette statue. Alors ça, je débordais un petit peu sur d'autres enfants Jésus, mais ils sont tellement charmants. Vous avez celui-ci de la Racelli, et chose très triste, c'est une copie qu'il a aujourd'hui parce qu'il a été volé il y a peut-être 15 ans, pas plus, sans qu'on ait jamais pu remettre la main dessus. Et je vous disais que le culte s'est répandu vraiment dans dans le monde entier. Et donc, on a celui de Tchibou, on en a un qui est en Espagne, on en a eu, qui ne sont pas forcément des enfants Jésus de Prague, mais qui marque toujours cette dévotion. Donc ce qu'on nous demande d'être humble, d'être persévérant, d'être patient. Et l'autre jour, j'ai vu une phrase de Saint Vincent de Paul que j'aime beaucoup, qui disait « Une heure de patience vaut plus que 3 heures, que 3 jours de jeûne. » Et c'est vrai que c'est quand même très difficile d'être patient. C'est difficile aussi de jeûner, ceci dit. Donc voilà un petit Jésus ici d'Espagne, et voilà un petit Jésus de Prague que nous retrouvons qui est ravissant et touchant. C'est le petit saint enfant de Tchibou, et lui, c'est bien le petit Jésus de Prague. Simplement, sa robe est un peu plus courte, mais on reconnaît son grand manteau, sa main qui bénit et la main qui porte le globe terrestre.
La couleur de son visage ?
Comment ?
La couleur de son visage ?
La couleur, elle est foncée. Elle est foncée, il est, oui, oui. Mais des petits Jésus, on a fait aussi des petits Jésus africains, on fait bien sûr de tous les pays, chinois. Alors, ici je passe, et je vais revenir voilà, au grand saint dont je parlais tout à l'heure, donc saint Antoine de Padoue, qui a vécu vraiment très très proche de l'enfant Jésus. Et c'est Saint Christophe. Et là encore, Brady Bart le représente avec un enfant Jésus qui n'est pas habillé, mais qui porte le globe et avec sa petite main qui bénit. Frangelico est quelqu'un aussi qui a vraiment représenté l'enfant Jésus d'une manière si gracieuse. Là, vous voyez sa main droite et sur la droite de la diapositive, vous apercevez un des doigts très fins de la Vierge qui tient l'enfant Jésus sur ses genoux, avec son humble, évidemment, crucifère qui permet de le reconnaître. Le tableau ici de Léonard de Vinci me paraît très important par son symbole pour l'enfance et la dévotion à l'enfant Jésus. En effet, vous avez ici Sainte Anne, qui, vous voyez sur ce tableau qui est représenté, faut que je m'arrête bientôt parce qu'il est bientôt 6 heures, ce tableau qui est représenté sur un triangle, vous avez Sainte Anne qui représente au fond, avec beaucoup de tendresse, la Vierge Marie. En bas, vous avez un tableau très bien construit sur un triangle, avec la Vierge Marie assise sur les genoux de sa mère. Et que fait-elle? Avec un air d'infinie tristesse, mais elle accepte aussi, elle est en train de laisser partir son petit enfant, l'enfant Jésus, qui part vers la passion, qui est symbolisée par cet agneau, puisqu'il sera l'agneau crucifié et l'agneau immolé. À mon avis, c'est vraiment une très belle représentation où vous avez la compassion, la supplication de la Vierge Marie, qui aimerait que l'enfant ne subisse pas la passion, et puis cet enfant qui, voilà, il est venu pour cela. Alors, je vais passer les derniers rapidement, puisqu'il est presque 6 heures. Voilà ici la visite du pape Benoît XVI dans l'église de Prague, qu'il a vraiment beaucoup vénéré. Et puis, j'ai trouvé aussi une bouteille de vin qui s'appelle la vigne de l'enfant Jésus. Pourquoi? Parce que cette vigne se trouve sur l'emplacement d'un terrain, sur un terrain qui avait appartenu au Carmel. Et enfin, un baptême. Je n'ai pas réussi malheureusement à trouver l'origine, mais j'ai trouvé ça très sympathique. J'ai trouvé ça sur Internet. Le Jésus de Prague 3, Boulogne, Étaples. Voilà. Et ça me permet de terminer un peu en disant de ne pas vous inquiéter, parce que dans la vie spirituelle, les vents contraires mènent au port. C'est pas de moi, hein. Voilà, vous faites finir à 6h pile, j'ai fini à 6h. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci. Voilà.
Merci beaucoup. C'est toujours avec toi que je vous écoute.
Ah, merci, mais moi aussi.
De mieux en mieux. Merci beaucoup. À bientôt.
Compris.
Mais je commence en retard.
Marie-Alix de Vara. Moi, je suis guide conférencière. Voilà. Non, mais je ne suis pas. Ah oui, c'est ma petite question. La femme de mon cousin Germain. Et vous,
je vous ai mon téléphone, bien sûr.
Oui, là, j'étais un peu tenue.